Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour les gens, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Salut.
Bienvenue sur ma chaîne Twitch et ça me fait plaisir de vous avoir en direct et en plus ça me fait vraiment plaisir de t'avoir toi Mimi. Alors c'est bizarre parce que je te regarde là dans mon écran et en même temps les gens ils sont en fait on va se regarder.
Moi,
comme
pas
ça.
On si est je à... regarde là, je te verrai un jour peut-être, là je te vois pas. Si je regarde là, bah du coup les gens me voient avec toute ma belle peau de confinement.
Et ces petits lights roses là et tout là, on est sur petit setup.
Confinez-vous avec un streamer, comme ça il a tout le matériel. Vous n'avez rien
Confinez-vous avec un streamer.
C'est Marocco, voilà. Salut, c'était sympa.
C'était court, mais c'était intense. Bref.
Ah bah moi on m'a dit les formats courts ça marche, tu
vois. Il y a Doro sur le chat qui dit oh my god Mimi Gaming.
C'est moi.
Salut Doro.
Yo, tout le monde c'est Mimi. Salut Doro.
J'ai hâte que tu lances ta chaîne de streaming.
Oh là, moi aussi.
Ce
un
dit...
jour, bientôt, peut-être bientôt.
C'est vrai ?
Peut-être.
Ah, ok, on a une exclue ce soir, c'est super. Bonjour tous les gens qui arrivent. Bienvenue.
Salut les Fabolos.
Bienvenue, c'est les Fabolos, c'est vrai. J'ai toujours du mal à... Je sais pas trop si les gens, ils acceptent ou pas ce surnom.
Moi, perso, ça m'offense.
Ouais, voilà.
Moi, je serais toi. Non, en vrai, ça m'offense pas. Mais en vrai, j'y pensais l'autre jour, je sais là, faudrait peut-être que je conseille à Fab de... réfléchir à l'éventualité de changer de nom de commune. tu peux les appeler les Fabiens. C'est tous des Fabien Laurent. Et comme ça, c'est un peu genre t'es double maléfique.
Mais déjà, les gens, ils pensent que je m'appelle vraiment Fabien.
Ta vie va être trop chiante.
Ça marcherait pas, ça serait long.
Les Fabulous.
Les quoi?
Les Fabulous.
Les Fabulous, ouais.
Fable de la Fontaine. Bref, allez. Waouh.
Les Fables de la Fontaine, sérieux.
C'est quoi, je te le donne et t'en fais ce que tu veux, après c'est un cadeau quoi.
C'est les Fabinous propose Poche Muski. Bon, très bien, on va pas faire tout le stream là-dessus. Mais en tout cas, bienvenue à vous. C'est donc ma nouvelle émission que je lance sur ma chaîne Twitch qui aura lieu donc tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 20h. A priori, je pars sur 20h. Peut-être je vais évoluer par la suite, genre 21h. Mais là, aujourd'hui, je me disais 20h. La semaine passée, j'ai fait ma première FAQ, dont vous pouvez retrouver d'ailleurs le replay dans ma chaîne Twitch si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai fait 20h et à 21h il y a plein de gens qui ont fait et au fait il y a Denis Brognard, alors salut, je dois me casser. J'ai fait bon,
dur de tenir là, tu vois, tu sauras que t'auras réussi le jour où les gens ils diront j'ai raté Koh-Lanta pour toi.
C'est
le
clair.
Jour où Denis Brognard il passera numéro 2.
J'ai encore du taf, mais oui, je reste modeste, faut pas non plus s'énerver de trop. Et donc effectivement, dans cette émission, je recevrai trois fois par semaine un invité ou une invitée avec qui on discutera un petit peu d'une recommandation culturelle de sa part. De temps à autre, je vous ferai part moi également de ma reco, parce que parfois j'en ai aussi. Et puis voilà quoi. Est-ce qu'il y a éventuellement des gens qui te connaissent pas sur ce chat.
Je sais pas, mec,
c'est ma commu, mais peut-être il y a des gens qui te connaissent pas. Quoi qu'il arrive, en fait, ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que ce stream sera disponible effectivement en replay, mais il sera aussi dans un podcast, parce que tant qu'à faire, effectivement, on n'aura pas nos bonnes têtes, si tu veux, mais je pense que c'est un format audio, quoi qu'il arrive, et que ça peut marcher. Donc, en fait, je vais lancer un podcast, histoire de pouvoir proposer aux gens de pouvoir...
J'ai cru que ton podcast allait s'appeler « Histoire de pouvoir ».
Histoire de quoi?
Histoire de pouvoir. Oh, t'as fait une pause bizarre. T'as dit je vais lancer un podcast histoire de pouvoir. Et après t'as fait une pause. Du coup je sais pourquoi ça s'appelle histoire de pouvoir. Ça s'appelle la Rocco. Bref. Je reviens vers vous.
Avec Frank Underwood comme premier invité.
Tout à fait.
Je sais pas si ça marche. Bref. Donc Mimi, pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es rédac chef de Mademoiselle.
Tout à fait. Magazine que tu as fondé toi-même il y a 15 ans. Je suis rédac chef de Mademoiselle où je travaille depuis 8 ans. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Bah là, je fais pas trop grand-chose de visible en dehors de Mademoiselle, même s'il y a des choses qui se passent. Donc, vous pouvez me retrouver partout sur Internet, @mimihgl, avec M-Y-M-Y-H-G-L. Et voilà.
Le
si
jour...
vous aimez les villes et l'automne et la bouffe, probablement que ça devrait vous intéresser.
Un jour où Mimi a décidé d'uniformiser l'intégralité de ses pseudos, et là, vraiment, je me suis dit, waouh, quelque chose se passe.
Ouais, 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 bah c'est comme ça qu'on devient influenceuse, hein, finalement. Pas du tout. Enfin, c'est une bonne première étape, mais j'ai pas fait les autres, donc ça va.
Et il y a Chino qui dit sur le chat que t'es également programmeuse Animal Crossing parce que.
C'est vrai, c'est vrai. Chino, coucou, qui aide à modérer les live Animal Crossing chez Mademoiselle, donc merci beaucoup. Car je stream de temps en temps sur la chaîne de Mademoiselle. Là, j'ai pas de date précise à annoncer pour le prochain, mais en tout cas en 2021, vous pourrez m'y retrouver régulièrement si tout se passe bien.
Mais je pensais que tu t'en faisais une par semaine, alors c'est pas ça finalement.
J'en ai fait deux semaines de suite, mais on tourne là. Je crois que le mardi, on va jouer à Scriblio.
Ah, le jeu de dessin, là ?
Ouais, le Pictionary débile.
J'ai l'impression que c'est le nouveau Among Us. Je me trompe ou pas ?
J'ai jamais fait Among Us, ni Fall Guys, mais Scriblio, c'est très très marrant pour un Pictionary. C'est vraiment très très cool, et parce qu'en plus, tu peux écrire ce que tu veux, je crois, comme mot à faire deviner, du coup, c'est très marrant.
Ok, trop classe.
Yes.
Je l'ai vu passer là sur des discords à droite à gauche. Je me suis dit, ça y est, c'est le jeu auquel tout le monde commence à jouer, quoi. Maybe
le flair de Fab Flo.
Et on peut aussi te retrouver dans LMK. J'ai pas encore écouté l'épisode de cette semaine, mais apparemment c'est l'épisode de la connerie.
Bah en fait, le truc c'est que donc Laisse-moi kiffer, c'est le podcast de Mademoiselle de reco, mais aussi de digression. Et il y a une équipe historique qui est formée par Kalindi, Cédric, moi, et à l'époque il y avait Louise, et maintenant il y a Alix. Et on est globalement toujours très cons quand on se réunit tous les quatre. Et là, il se trouve qu'en préparation du confinement, on a tourné 4 épisodes d'affilée de Laisse-moi kiffer, parce qu'il y en a un par semaine. Donc on s'est dit comme ça, on a tout le mois du confinement qui est booké. Et le podcast continue à sortir. Et donc, on avait déjà tourné 2 épisodes de 2 heures quand Cédric est arrivé. Donc déjà que d'habitude, on est cons. Là, on était cons comme après 4 heures de podcast à dire des conneries et à boire trop de café. Donc je pense qu'on avait bien la connerie. Oui. Et dans le prochain, ce sera encore pire, parce que ce sera le 4e d'affilée.
Oh !
Quel plaisir !
Ça va être...
Oui, allez, écoutez, laisse-moi kiffer si vous ne connaissez pas. C'est la meilleure chose et on rigole bien.
Et il y a Haute Vie sur le chat qui dit « Est-ce que laisse-moi kiffer, c'est en hommage à Diams ?» On vous laisse décider.
C'est tout à fait la ref.
C'est la très bonne ref, tout à fait.
Oui.
Mimi, tu m'as dit, alors ce que je vais faire, je pense, dans les prochains épisodes, c'est que je vais demander à mes invités en avance la reco qu'ils vont m'amener, histoire que je puisse moi aussi préparer. Mais tu m'as dit, je vais pas te le dire, parce que je sens que ça va t'énerver.
Oui, un peu. Enfin, je pense que ça va un peu t'exaspérer, quoi.
Ok.
T'as pas le choix, on est en live et tu sais pas ce que je vais dire. Donc... c'est ça la vie.
Et parce que c'est toi, écoute, je me suis dit, ok, je fais confiance à Mimi, j'y vais YOLO, quoi, tu vois.
Okay. Donc, c'est un vrai truc, hein.
De quoi ?
C'est pas juste une vanne, quoi, ça.
Ah oui,
cool.
Bah, je me doute bien. Donc Mimi, nous t'écoutons, je t'écoute.
Alors attends, je t'ai dit que j'avais un indice audio.
Ah.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une vidéo YouTube à côté du micro, j'espère que ça va pas être trop fort ou pas assez fort. Là, t'entends ou pas ?
Ouais.
Tu l'as ou pas ?
Oui, c'est cette fameuse vidéo avec le générique de Game of Thrones et que des chèvres.
Tout à fait, c'est le générique de Game of Thrones repris par des chèvres que je me souviens que tu préférais au générique normal.
Oui.
Du coup, je me suis dit que j'allais te faire une fleur. Et du coup, c'est pour ça que je t'ai dit que ça allait t'énerver, c'est parce qu'on va encore parler de Game of Thrones.
Non !
Je sais que c'est vraiment ma passion, parce que ma reco, attention, visuelle.
C'est fini !
Ça ! Alors, c'est en miroir, du coup, peut-être chez vous.
Non, ça marche.
C'est Le feu ne tue pas un dragon, c'est un bouquin. Ce n'est pas un nouveau tome de Game of Thrones, car la vie est ce qu'elle est.
George
C'est-à-dire,
is dead.
Voilà. George is... non, George is alive, hein. On peut même pas lui en vouloir et il est, voilà, il est là.
Il n'a plus envie d'écrire, George.
Si, il dit qu'il travaille bien pendant le confinement. Du coup, Le feu ne tue pas un dragon, ce n'est pas un nouveau tome de Game of Thrones, mais c'est un bouquin sur la série Game of Thrones qui a été écrit par James Hibbert. En fait, James Hibbert, c'est un des premiers journalistes à avoir cru au potentiel de Game of Thrones, sachant qu'à la base, personne n'y croyait trop à cette série. Elle venait après plusieurs séries HBO très ambitieuses, genre Rome, avec pareil un côté un peu costume, une autre époque, beaucoup de sexe, beaucoup de violence, qui avaient coûté trop cher pour ce qu'elles avaient rapporté en termes de viewers et qui, du coup, avaient été annulées assez vite. Et du coup, bah, l'adaptation en série télé du Trône de Fer, qui est une saga qui a été notoirement écrite par George R. R. Martin, avec l'idée que ce serait jamais adaptable parce qu'il y a trop de choses qui coûtent trop cher, notamment bah, des batailles épiques, des dragons, de la magie, un milliard de persos, ça se passe sur 198 ans, enfin bref, c'est long. Et du coup, il s'est dit, voilà, je vais faire comme lui, il travaillait aussi à la télé. Il s'est dit, je vais mettre dans mon bouquin tout ce que je peux pas mettre dans mes séries télé parce que c'est impossible de les faire. Sans parler de la longueur de ces livres qui ne sont toujours pas finis. Et du coup, quand Game of Thrones a été adapté en série télé, il n'y avait pas grand monde qui croyait au projet. Et en plus, voilà, il y avait, bon, c'est de la fantasy, c'est quand même assez clivant. Et d'ailleurs, au final, il y a plein de gens qui disent, moi, j'aime pas la fantasy sauf Game of Thrones, ou je pensais que j'allais détester parce que j'aime pas le Seigneur des Anneaux et en fait, c'est trop cool. Donc voilà, le pari était loin d'être réussi. Et du coup, tous les médias n'ont pas sauté sur le truc. C'était une nouvelle série comme une autre, de HBO, certes, qui est quand même une chaîne prestige, donc on garde un œil dessus. Mais rien ne disait que ça allait prendre. Et en fait, ce mec, il a tellement cru qu'il a fini par être le spécialiste de Game of Thrones pour un grand média culturel américain, dont j'ai oublié le titre. C'est pour ça que je ne le dis pas. Et il a fait ce bouquin, il a suivi toutes les saisons, en fait. Il a couvert toutes les saisons pour ce média, en backstage, sur les tournages, il a rencontré les acteurs et tout. Et il a décidé de faire un bouquin sur les coulisses de la série Game of Thrones. Et ce qui est trop bien. Donc c'est ce bouquin, Le feu ne tue pas un dragon, qui est sorti en français au début novembre chez Pygmalion. Et ce qui est trop bien, c'est que il a vraiment eu tout le monde. Il a George R. R. Martin qui lui explique le processus d'adaptation. Il a les showrunners, il a tous les acteurs, genre vraiment tout le monde, même les gens du mec qui joue un personnage tertiaire qui a deux épisodes jusqu'à bah, le mec qui joue Jaime, le mec qui joue Tyrion, la meuf qui joue Daenerys. Et du coup, il raconte chronologiquement comment la série Game of Thrones est née, comment elle a été reçue, comment les acteurs ont été castés, comment ils ont vécu ce succès que personne n'avait prévu dans cette ampleur-là, comment les acteurs qui sont partis parce que leurs personnages sont décédés l'ont vécu aussi, parce que bah, on se dit jamais qu'est-ce qu'ils ont... Spoiler pour Game of Thrones.
Okay. Spoiler, attention.
Attention.
Revenez dans 5 minutes.
Qu'est-ce qu'ils ont vécu Richard Madden qui joue Robb Stark et Catherine Fairley, pas sûr, qui joue Catelyn Stark. Nous, on a vécu le Red Wedding où leurs personnages meurent, ils se font égorger, ils se font éventrer, c'est l'enfer. Et on était en PLS, mais en fait, après, les acteurs, ils rentrent chez eux et ils quittent quand même une aventure où ils étaient depuis 3 ans et qui est devenue la série phare du monde. Donc en fait, bah, c'est hyper compliqué. Enfin, ils expliquent que la meuf qui joue Catelyn Stark, elle a mis vraiment du temps à s'en remettre. Ils avaient tout fait pour que le tournage de cette scène-là soit la dernière de leur tournage de cette saison avec ces acteurs-là. En se disant que ça allait, que du coup l'émotion allait être encore plus réelle. Et effectivement, bah, les acteurs expliquent qu'ils étaient ultra bouleversés de quitter toute l'équipe, de savoir que c'est la dernière fois, que c'est la dernière scène, de quitter aussi ses personnages et tout. Mais en fait, c'était une bonne idée scénaristiquement et ça les a fait jouer très très bien. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que bah, la meuf qui joue Catelyn Stark, le lendemain, elle prend l'avion et elle rentre en Angleterre. Et en fait, elle est en PLS et elle doit digérer tout ça. Elle a parlé à personne pendant plusieurs jours et tout parce qu'elle était là genre... Ok, c'est fini. Et du coup, après ça, ils ont mis les scènes de mort un peu dures, pas à la fin du tournage, genre, un peu avant la fin, pour qu'il y ait quand même le temps de retourner une ou deux scènes cool après, de repasser du temps ensemble et tout, pour pas que les gens partent sur des scènes hyper éprouvantes. Voilà, petite anecdote.
Wow.
Et en fait, c'est hyper cool.
Juste 2 secondes, mais est-ce qu'il parle de l'acteur qui joue Ned Stark, qui quand même joue un rôle majeur dans la saison 1 ? Alors, spoiler encore une fois, désolé, mais en gros, se fait couper la tête à la fin de la saison 1 et en fait, finit par ne plus être du tout faire partie de cette aventure, alors que c'est quand même un truc énorme par la suite, quoi. C'est dingue aussi, ça.
Lui, il me semble qu'ils l'ont pas eu, c'est Sean Bean. Mais après, moi, ce que je me dis, c'est que c'est différent quand tu sais que tu viens tourner qu'une saison. Tu vois, ça ressemble peut-être un peu à un tournage de film. Du coup, bon, bah voilà, je joue un perso, on passe quelques heures avec lui finalement, et puis après, il meurt. Et surtout, tu sais pas encore l'impact que la série va avoir et le fait que cette scène va être décisive pour toute la série, parce que c'est cette scène quand même qui a fait beaucoup parler de Game of Thrones, de « Ok, là, ils ont fait un truc que personne fait. »
Tu parles du Red Wedding
Non, tu parles de Ned Stark.
Ok, oui.
Saison 1, tout le monde pensait que c'était l'histoire de Ned Stark, et Ned Stark, il est mort, et du coup, tout le monde était là en mode « Bah non, mais c'est le gentil. » Donc, c'est le gentil, il y a ses filles, le but, c'était qu'il aille à la garde de nuit et qu'il revienne se venger, tu vois, bah, c'était ça le plan. Et du coup, bah, non, c'est pas juste. Et en fait, c'est aussi... Martin, il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça. Il sait qu'il prend un trope de fantasy et il le retourne. Et du coup, bah, c'est le fameux... Personne n'est à l'abri dans Game of Thrones. Alors, ce qui n'est pas vraiment... Enfin, ce qui est à la fois vrai et pas vrai, dans le sens où oui, il y a plein de personnages importants qui meurent, mais c'est toujours logique, c'est pas, en tout cas dans les livres, c'est pas tuer pour dire « Oh là là, on change les règles !» Bref. Et du coup, c'est cette scène qui a fait énormément parler de la série et qui a intrigué beaucoup de gens en mode « Ok, qu'est-ce que c'est que cette série de fantasy ?» qui est un genre quand même hyper codifié et un peu vu et revu, qui fait parler tout le monde et où apparemment c'est hyper choquant. Et du coup, le Red Wedding, c'était rebondir sur cette scène-là, parce que dans la logique des gens, même si on vient de leur dire « Ne vous attendez pas à une histoire classique, quand Ned Stark meurt, la logique c'est quand même « Ok, donc en fait c'est plutôt l'histoire de son fils, et Robb Stark qui fait la guerre, il gagne des batailles, tu vois, il est bien placé, on se dit donc c'est peut-être l'histoire de Robb Stark qui fait sécession et redevient roi du Nord avec le deuil de son père et tout. » Bah non, 2 saisons plus tard, Robb Stark il est dead aussi, tu vois, c'est pas son histoire. Donc si la scène avec Ned Stark marche pas, la scène avec Robb Stark marche moins bien, je pense.
Analyse. Pas mal, ouais.
Purel.
Excuse-moi, et mais il y a juste, je te coupe encore 2 secondes, garde ça, mais il y a Grizzly Grincheux qui dit « Je conseille une vidéo YouTube de la chaîne Chronique Fiction sur la mort de Ned Stark. » Voilà, je ne connais pas, mais je note.
Bah on note, carrément. Voilà.
J'irai le mettre dans les notes du podcast, comme ça en replay, il y aura des trucs en plus. Pardon, je t'ai coupé.
Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'allais dire ?
Bah voilà.
Bah oui, c'est ça qui se passe. ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a... Donc oui, non, pour répondre à ta question sur Ned Stark, donc, je ne crois pas qu'il ait interviewé Sean Bean. Après, il parle assez longuement de cette scène et de comment ils l'ont tournée, de comment ils étaient conscients de l'enjeu. Il y a des différences entre la scène et le bouquin qu'ils ont choisi de faire, qui sont pas mal et tout. Mais ils n'ont pas Sean Bean, mais je pense que quand Sean Bean il tourne cette saison, personne ne l'a encore vu, donc personne ne sait c'est quoi Game of Thrones. Et du coup, bah, voilà, tu viens tourner un rôle, à la fin il meurt, tiens, c'est original. Espérons que ce soit assez bien pour avoir une saison 2. Et alors que bah, c'est Michelle Fairley, le nom de la meuf qui joue Catelyn Stark, et Richard Madden, ils savent, ça fait 3 ans, c'est devenu des superstars mondiales avec cette série. Et puis... il y a aussi ce truc de, il y a beaucoup, la plupart des acteurs n'avaient pas lu les bouquins et ont choisi de ne pas lire les bouquins, un peu comme les gens qui jouaient dans Harry Potter et du coup qui voulaient pas se spoiler le destin de leur personnage. Et du coup, bah parfois ils étaient eux, enfin ils ont le droit à un coup de fil spécial pour leur annoncer qu'ils vont mourir et tout, pour un peu mettre les formes sur ok, c'est ta dernière saison, mais wow. Le dis pas trop, faut que tu sois content en interview quand même, sinon les gens ils vont savoir.
Ok. C'est chaud. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. C'est vrai qu'on n'y pense pas.
Bah ouais,
c'est hyper
bah,
malin comme angle.
Et du coup, bon, ce qui est, voilà, pour moi, la grande force de ce bouquin, c'est qu'il parle à, c'est une enquête qui a eu le droit de parler à tout le monde, donc c'est vraiment cool. Et il y a plein de paroles. Enfin, je pense que, par exemple, à un moment, il y a le mec qui joue Jon Snow, donc Kit Harington. Il raconte que il y a eu toute une scène qui a failli être annulée parce qu'il s'est cassé la cheville, comme moi, et qu'il s'en voulait trop, et que du coup, bah, ils expliquent toutes les galères de tournage repoussées et tout qu'ils ont eu. Et en fait, il explique qu'il s'est cassé la cheville parce qu'il s'était torché, torchimax la gueule. Et il était rentré chez lui et il avait oublié ses clés. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais escalader le mur jusqu'à ma fenêtre au premier. Et il est tombé et il s'est cassé la cheville. Et du coup, il s'en veut trop. Et on a appris plus tard que Kit Harington, il avait des problèmes sérieux avec l'alcool. Il a été en cure de désintox après la fin de Game of Thrones. Mais du coup, je pense que c'est le genre de détail qu'il raconterait pas à tous les médias. Mais quand t'as construit une relation de confiance avec ce journaliste qui est là depuis des années, que toute l'équipe lui fait confiance aussi, du coup, je pense que c'est ce genre d'histoire que tu peux pas avoir si t'as Kit Harington pour 3 minutes pour te parler de la nouvelle saison de Game of Thrones, quoi. Donc c'est très, très profond. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça m'a rappelé un peu que j'aime vraiment beaucoup Game of Thrones, en fait, la série, même si les dernières saisons sont quand même très décevantes. Et qu'à la base, en fait, les showrunners ont vraiment été bien choisis et ils ont bien fait leur taf. Enfin, ils ont bien fait le taf pour lequel ils ont voulu faire ça et pour lequel ils ont été embauchés, qui était d'adapter des bouquins. Et ils se sont un peu retrouvés bah, le bec dans l'eau quand Martin s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas leur donner des nouveaux bouquins à temps et que c'était à eux de finir son histoire. Mais en fait, ils étaient vraiment passionnés du truc. C'était des showrunners, donc c'est Daniel Benioff et Daniel Weiss, qui sont surnommés D&D parce que c'est de Daniel. Ils n'avaient pas fait grand-chose avant. Il y en avait un qui avait fait le screenplay d'une adaptation au ciné. L'autre, il avait fait des pitchs qui n'avaient pas trop été vendus, ou alors des films nuls, genre X-Men Wolverine. Pas Logan, oui. X-Men Wolverine avant, c'est pas bien, quoi. Et du coup, bah, y a pas trop... c'est ce qui montre aussi que pour HBO, c'était un pari... voilà, ils n'ont pas mis toutes leurs meilleures cartes dessus parce qu'ils ont pris des showrunners qui ne devaient pas être hyper chers, je pense. Et en fait, c'était vraiment des passionnés et ils ont vraiment eu le truc parce qu'ils sont à fond sur Game of Thrones et ils ont énormément réfléchi à comment ils allaient adapter certaines choses. En plus, au début, ils n'avaient pas beaucoup de budget. Donc, c'est pour ça que dans la saison 1, il y a beaucoup de scènes où c'est juste deux personnages qui parlent dans des pièces. Et en fait, ils pensaient que ça allait faire chier les gens. Et au final, ça a fait partie de ce que... Enfin, pour le coup, quand il y a eu moins de longs dialogues dans Game of Thrones, les gens étaient un peu déçus. Quand c'était plus de grands spectacles et moins de machinations politiques devant des feux, je pense que ça fait partie de ce que les gens aimaient bien et qu'ils ont perdu. Mais pour eux, c'était pas une volonté artistique, c'était on n'a pas de thunes. Donc on est un peu obligé de faire comme ça parce qu'on ne peut pas mettre des dragons là tout de suite. Et on ne peut pas mettre des grandes batailles, donc on va parler de la bataille dans une tente. Après la bataille, ça va le faire.
Ouais.
Et en fait, ils ont.
Comme ce que fait Kaamelott un peu.
Probablement, hein, oui. Ou tous les trucs n'ont pas trop de budget, quoi. Et du coup, ils expliquent quand ils ont commencé à avoir du budget, comment ils ont choisi. Enfin. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi de dire « Ok, cette bataille-là, on va vraiment bien la voir parce que c'est important. Celle-ci, on peut la faire dans le noir, c'est pas très grave et tout. » Donc c'est intéressant et je l'ai pas encore fini, j'en suis à, je sais pas, un quart. Donc j'ai vraiment appris plein de choses. Et c'est cool parce que, en fait, la réputation des showrunners a quand même énormément pâti du relatif fiasco scénaristique qui était la fin des dernières saisons, enfin la fin de la série Game of Thrones des dernières saisons. Et ils ont été l'objet de beaucoup de haine en ligne quand même, de harcèlement sur internet, n'est-ce pas? Et je pense que c'est compliqué parce que du coup, il y a vraiment des gens pour qui je pense ils ont été tellement dégoûtés qu'ils leur font plus confiance et que savoir qu'une série est faite par eux, ça pourrait leur faire dire je vais pas la regarder parce que ça va être décevant. Et du coup, bah, il y a des projets qui sont un peu en stand-by et tout, même si après, voilà, les gars, ils sont multimillionnaires, je vais pas les plaindre, tu vois, c'est, ils font leur vie et ils ont toujours des contrats. Mais c'est vrai qu'ils ont été quand même très très critiqués. Et je trouve ça bien de se rappeler qu'à la base, c'était quand même deux mecs qui faisaient de leur mieux pour adapter un truc qu'ils adoraient. Et quand ils faisaient que adapter, tout le monde adorait aussi, quoi.
Ils n'étaient pas censés écrire un Star Wars, non? C'est pas ça?
Si, mais je crois que ça, c'est Dead. Ah. Ils étaient censés faire... Attends, je sais plus. Ils étaient censés faire une série HBO sur la guerre de sécession. Ce à quoi tout le monde a dit, vous n'avez pas montré genre, une intelligence incroyable sur les sujets raciaux dans Game of Thrones, donc êtes-vous sûr que vous voulez faire ça? Et ça a été annulé.
Okay.
Mais le Star Wars, je sais pas si ça a été annulé, je sais plus. Et je crois qu'ils ont signé peut-être un deal avec Netflix, je sais plus.
D'accord.
La moitié des infos.
Non, mais c'est pas grave.
Voilà, enfin, ils sont quand même sur des gros trucs. C'est pas comme s'ils avaient été canceled ni rien, tu vois. Mais je pense que leur réputation est quand même passée de très haut à middle en termes de showrunner compétent. Espérons qu'ils apprennent de leurs erreurs. Après, il y a aussi le bouquin n'est pas spécialement engagé pour la justice sociale ou quoi, mais il parle de vraies problématiques. Donc il y a l'exemple de Kit Harington qui parle de son rapport à l'alcool, même si c'est bref, c'est quand même intéressant, je trouve. Et il parle de problèmes qu'il y a eu sur le tournage avec des scènes de nu où normalement les scènes de nu ça se fait en petit comité avec le moins de techniciens possible pour que les personnes soient pas mal à l'aise, où en fait il y avait trop de gens qui avaient rien à foutre là et qui étaient là quand même, pas pour genre se rincer l'œil, mais juste parce qu'en fait c'était pas hyper pro et ils respectaient pas trop la sensibilité des acteurs et des actrices qui tournaient la scène, des choses comme ça. Et du coup c'est pas des bails de harcèlement, de MeToo ou quoi, tu vois, c'est juste, c'est pas pris avec beaucoup de délicatesse, on va dire. Le fait que des acteurs fassent des scènes intimes, c'est un peu genre ok, bon bah il faut les faire, on va les faire du côté des showrunners, alors que du côté des acteurs ils aiment bien quand il y a un peu plus de normal, de respect et de finesse. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi d'entendre parler de ça et de voir comment ça a changé maintenant un petit peu. Depuis quelques années, HBO notamment ne fait plus aucune série sans quelqu'un qui s'appelle le Intimacy Coordinator, qui est justement une personne dont le boulot, c'est de faire en sorte que les scènes intimes se passent bien. Alors j'imagine que si un jour HBO fait une série sans aucune scène intime dénudée, il n'y aura pas besoin, mais ce n'est pas trop leur truc, puisqu'ils sont quand même connus pour les petits culs. Et du coup, le boulot de cette personne, c'est de s'assurer que si, les costumes, c'est bien ce qu'on a dit, les éventuelles prothèses, make-up, c'est bien ce qu'on a dit, le nombre de gens dans la pièce, c'est bien ce qu'on a dit, si ça va pas, tu me fais un signe, est-ce que cette scène, elle est vraiment obligée d'être nue aussi? Parce que, j'en suis pas encore arrivée là dans le livre, mais je sais que plusieurs actrices de Game of Thrones ont renégocié leur contrat quand la série a décollé pour arrêter de faire des scènes de nu, et notamment, on n'a pas vu les seins de Daenerys depuis genre la saison 2 ou 3, je crois. Ce qui est toujours bien de pouvoir choisir de pas les montrer, même si on a que ça dérange pas et que voilà, c'était pas, il y a pas tel, enfin, alors je réfléchis à votre, t'as une question ou pas? Je suis en train de me perdre dans mes considérations sur est-ce qu'il y a autant de nudité gratuite dans Game of Thrones que ce qu'on dit.
En fait, dans les premières saisons, oui, j'ai l'impression que dans les saisons qui suivent, beaucoup moins quand même.
Oui, ils se sont calmés. Bah, une fois qu'ils avaient plus Littlefinger dans son bordel, ils se sont quand même calmés. Je pense que ça faisait partie un peu de l'effet... il faut qu'on mette le paquet au début pour faire parler les gens, tu vois. Qu'on soit une série un peu provoque, parce qu'en plus, de base, c'est de la fantasy qui est quand même un genre, historiquement, pour les gens qui s'y connaissent pas trop, très peu sexuel. Je veux dire, Le Seigneur des Anneaux, t'as pas une zouze à l'horizon, ouais. T'as pas une... Enfin, il se passe rien. Donc peut-être ils se sont dit, on va monter le curseur sur les uns pour dire, venez nous regarder. Et après, ils se sont calmés. Et peut-être aussi que c'est parce que des gens ont critiqué le fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes toutes nues gratuites. Parce que ça aussi, c'est que quand on dit nudité gratuite, on parle surtout de nudité féminine, meufs, quoi. Mmh. Et qu'en plus, c'est des meufs, bon, enfin, c'est des décors, quoi. C'est des meufs à poil dans un bordel. Donc, c'est même pas des personnages intéressants. Alors que quand t'as une Brienne qui se met toute nue, là, ça veut dire un truc, c'est cool, quoi. Il n'y a pas de raison de supprimer cette scène. Bref, voilà. Petite interrogation sur la nudité dans Game of Thrones.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Il y a Camille qui demandait, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu peux juste redonner le nom du livre?
Ça s'appelle Le feu ne tue pas un dragon. L'histoire officielle du making of de la série, et c'est chez Pygmalion.
Okay.
J'en avais fait un article sur Mademoiselle. En fait, le livre a mis quelques semaines à sortir en français, mais quand il est sorti aux US, du coup, bah, y a tous les zinzous de Reddit dont je fais partie qui ont posté tout ce que George Martin a appris comme anecdote, enfin nous a appris comme anecdote dans ce bouquin, tous les trucs qu'on savait pas et tout. Donc les gens, ils lisaient le livre et en temps réel, ils prenaient des notes pour Reddit, tu vois. Enfin bref, les fans, quoi. Et du coup, j'avais fait un article sur Mademoiselle qui recoupait voilà, pas mal de threads Reddit et plusieurs autres sources qui disaient un peu voilà, ce qu'on apprend de nouveau sur Game of Thrones. Et du coup, dedans, il y a deux titres du bouquin et je crois le lien pour l'acheter, il était déjà en précommande en français.
Ok.
Donc, quel plaisir. Et puis, je trouve... Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, il y a Camille qui demandait si ça valait la peine de lire le bouquin si tu n'avais pas vu Game of Thrones.
Si t'as pas vu et pas lu, je pense pas, parce que du coup, tu vas vraiment pas comprendre de quoi on parle. Si t'as lu mais pas vu, ça peut valoir le coup, parce que bah, ça parle aussi de comment adapter les bouquins et de qu'est-ce qui fait que ces bouquins sont si particuliers et tout. Et il y a George R. R. Martin qui parle pas mal. Mais je pense que plus ça va avancer, comme le bouquin est par ordre chronologique, en fait, la série, à partir de la saison 5, s'éloigne vraiment beaucoup des livres. Il y a vraiment des scènes qui n'existent pas dans les livres. Du coup, bah, au bout d'un moment, le bouquin va parler de scènes que la personne qui n'a pas vu la série n'aura pas vu du tout. Donc je pense que c'est quand même mieux d'avoir regardé, ou au moins lu, les bouquins. Mais après, je pense que ça reste intéressant pour capter un peu les coulisses d'une aussi grosse machine en termes de production. Mais bon, je sais pas si... Il est quand même gros, quoi. Il fait...
C'est un beau pavé, hein.
496 pages. C'est peut-être long, 500 pages sur les coulisses d'une série qu'on n'a pas vue. Moi, je le ferai pas.
Ouais.
Bon. Je ne lirai pas 500 pages de coulisses de Kaamelott, par exemple. Bon. C'est vraiment très intéressant pour comprendre les coulisses d'un succès français tel que Kaamelott.
À propos de Kaamelott, il y a. Alors, je ne sais plus qui, mais j'ai vu. Karine0811 qui dit: moi qui suis pourtant d'accord avec la théorie de Mimi vis-à-vis de Kaamelott, je pense qu'elle fait la même chose avec Game of Thrones.
C'est-à-dire.
Bah que...
C'est quoi ma théorie sur Kaamelott?
Bah, que t'en parles. Que tous les fans en parlent beaucoup.
Ah oui, mais moi j'essaye pas de forcer. Après, tu m'as invité dans une émission de reco, tu vois. C'est pas comme si c'était un stream random et ça fait 28 minutes que je te parle de Game of Thrones. Il y a un contexte. Et quand les gens n'aiment pas, je leur dis ok, généralement. Je n'essaye pas de les forcer. Mais maintenant, vous êtes coincés avec moi. Du coup, je vais continuer à parler de Game of Thrones.
Et c'est vrai que ce que
c'est la faute à Fab Flou, il a pas vérifié.
Ce que Karine dit, c'est que tous les femmes, c'est vrai que tous les fans te la recommandent. Mais je sais pas si tu recommanderais toi Game of Thrones en tant que série aujourd'hui à quelqu'un qui dit, moi je cherche une série à regarder.
Bah tu vois, il y a Lucie, la rédactrice beauté de Mademoiselle, qui a découvert Game of Thrones pendant le premier confinement, qui l'a bingé pendant le premier confinement parce qu'elle avait ce truc réfractaire de, en fait tout le monde en parle trop, du coup ça me saoule, du coup j'ai pas envie de regarder. Tout le monde me dit de regarder et du coup par réaction je vais pas le faire, et au final elle s'y est mise, elle a fait un deal avec son mec genre t'acceptes de regarder ça et en échange je regarde Game of Thrones, et en fait elle a adoré et elle a pas été si déçue par la fin. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi, peut-être qu'on l'apprécie plus quand on n'est pas là à attendre pendant un an à se taper toutes les théories, parce que c'était un délire Game of Thrones quoi. À chaque épisode il y avait 12 000 articles sur des théories issues de l'épisode, plus, donc j'en ai écrit pas mal, hein, plus 12 000 articles que j'ai écrit aussi sur les lecteurs de Game of Thrones vous expliquent l'importance de telle scène ou débunk des théories, machin. Enfin bref, c'était ça. Enfin, je me souviens des lectrices de Mademoiselle qui étaient là, en fait, il y a 3 mois par an où tous les lundis, ma vie est chiante parce que tout le monde me parle que de ça. Mademoiselle, il n'y a que ça. Et j'étais là, sorry, vous êtes dans la minorité. C'est trop bien, Game of Thrones. Mais bon, désolé. Donc je me dis que ça vaut quand même le coup. En vrai, je trouve que c'est dommage, quand on aime un petit peu les séries télé, de ne pas regarder Game of Thrones, ne serait-ce que pour le monument que c'est. Quand on aime la fantasy, quand on aime, je sais pas, les œuvres un peu fondatrices de certains genres, je pense que ne pas voir Game of Thrones, c'est dommage, parce que on n'est peut-être pas obligé de se taper les 8 saisons. Il y en a quand même beaucoup. Mais je pense que on peut regarder. Mais je suis vraiment curieuse de savoir si c'est possible de se dire, ok, je regarde 3 saisons de Game of Thrones et de s'arrêter là. Je pense que oui, tu peux aller lire les résumés sur Internet et tout, mais bon, les 4 premières saisons sont vraiment très très bien. Et je pense qu'en tant que phénomène culturel, en fait, c'est toujours intéressant. Donc, c'est un peu dommage de passer à côté. Après, si vous regardez 2 épisodes et vous aimez pas, bah arrêtez, vous allez pas aimer, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai pas vu les Star Wars, je vais pas me forcer à regarder 18 heures de film pour voir le phénomène culturel. J'en ai vu 2, j'ai fait bon.
Alors, à titre personnel, les 4 premières saisons sont pas très très bien. Moi, j'ai vu les 2 premières saisons que je trouvais cool. À la fin de la 2e, c'était un peu long. Ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai.
Mais parce que toi, t'aimais pas quand il parlait dans des pièces. C'est non, la meilleure mais... chose de cette série.
C'est pas ça, c'est que. Bon, bref. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est que j'ai récupéré d'une vidéo d'une heure avant de regarder la dernière saison. Il y avait un super résumé. Peut-être que je le remettrai dans les notes d'ailleurs, parce que c'était vraiment
ouais,
trop cool. C'était toi qui me l'avais recommandé.
Et... Ouais, j'en avais fait un article sur Mad.
Et en fait, tu démarres la saison 8 avec vraiment ce qu'il faut pour comprendre, sauf effectivement les détails que toi, tu me soufflais à l'oreille, en fait. Mais sinon, ça te permet vraiment de comprendre globalement ce qui se passe. Donc, c'est vrai que je regrette
ouais,
pas, en fait.
Si t'as vu 1 ou 2 saisons, ça marche. Si t'as vraiment rien vu, je pense que t'es paumé, quoi. Il y a trop de monde. Il y a vraiment beaucoup de personnages, surtout au début. Mais si t'as vu 1 ou 2 saisons et que du coup, t'as la base de « Ok, qui est sympa, qui est pas sympa, c'est quoi ce monde ?» Let's go, le résumé, il fait le taf, ouais.
Il y a Français qui dit « Mimi, je t'aime même quand tu parles de Game of Thrones alors que j'ai jamais lu ni regardé. » Tu vois, comme
ça. Oh merci. Je sais pas ce que tu fais là, franchement. Non, mais si, il y a un truc passionnant. Écoute, les gens parlaient de leur passion, mais bon.
Ouais, je suis d'accord. Voilà. Tu voulais dire un truc avant oui. qu'on bondisse sur les questions.
Oui, tout à fait. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce bouquin, c'est qu'il m'a rappelé un truc dont je m'étais pas rendu compte, qui manquait un peu ma vie. C'est les commentaires DVD. À l'époque, dans les DVD, qui étaient des films sur des disques, pour les 2000 qui sont sur le stream de Fab Flow, dans les DVD, il y avait souvent des commentaires du réel ou des acteurs où, en fait, ils commentaient des scènes. Donc, tu avais la scène qui se jouait et eux, en voix off, ils disaient bah, « Là, il s'est passé ça. Là, on le voit pas, mais en fait, je me suis vraiment cassé un truc et ça m'a fait hyper mal » ou des choses comme ça. Ouais. Et qui expliquaient aussi, facecam, bah, toutes leurs intentions, comment ils ont construit cette scène, comment ils ont choisi ce truc et tout. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour... Enfin, moi, j'ai un vrai truc de gamine avec le cinéma et les séries où vraiment, je ne comprends pas. Genre, j'arrive... Je suis con, mais bon, j'y pensais parce que je regarde The Crown en ce moment. Et j'étais là, genre, mon cerveau rationnel sait qu'ils n'ont pas tourné à Buckingham Palace, que, en fait, y a des... enfin, que c'est pas des vraies pièces, mais que c'est beaucoup de fausses pièces et tout, machin. C'est des décors, quoi. Voilà, c'est des décors et tout. Mais je n'arrive pas à réconcilier ça avec l'image que je vois à l'écran. J'arrive pas à sortir de cette image pour me représenter, OK, les câbles, les caméras, les techos derrière, qui fument des clopes, qui boivent des cafés, les pauses déjeuner et tout. Tu vois, je suis vraiment en mode, je n'arrive pas à sortir de la magie du cinéma parce que c'est quand même très bien fait de nos jours. Et surtout sur une télé d'aussi bonne qualité que celle que j'ai la chance d'avoir pendant ce confinement. Et du coup, ça m'aidait un petit peu les commentaires DVD, parce qu'il y avait souvent du coup des plein de making-of vidéo qui te montraient vraiment à quoi ça ressemble sur le tournage. Et j'étais là, ok, avec le visuel, j'arrive à rationaliser un petit peu ce que je vois à la fin, qui a quand même l'air très très vrai par rapport à ce qu'ils ont fait eux. Enfin bref, peut-être que je suis très naïve par rapport au cinéma, mais du coup c'est bien parce que je suis facilement émerveillée. Et ça se fait plus trop maintenant, les commentaires DVD, parce que on a plus de DVD déjà. Mmh. Et quand on stream sur Netflix, etc., il y a assez rarement des behind the scenes ou des making of. Il y en a un petit peu sur Netflix pour certaines séries. Et il y en avait pour Game of Thrones. Il y avait, alors peut-être pas dans toutes les saisons, mais en tout cas dans les dernières, chaque épisode avait un épisode compagnon behind the scenes où il y avait les acteurs et les showrunners qui t'expliquaient comment ils tournaient, qu'est-ce qu'ils avaient choisi. Mais c'était un peu trop corporate, je trouvais, et parce que voilà, c'est filmé par HBO, pour HBO, donc tu vas pas dire les trucs bof. Et donc c'était un peu anecdote de tournage, genre haha, et là il m'a fait un croche-patte et on a tous ri, on est une grande famille. Okay.
Ah, c'est pas et vraiment pareil que des commentaires où le gars il est dans un studio et il dit ah tiens, au fait, tu te souviens là à ce moment-là, qui est beaucoup plus à l'arrache, on les imagine sur un canapé avec des bières quoi, en train de commenter leur truc.
Ouais, voilà, c'était moins vivant. Je vous conseille, je pense qu'il est dispo sur internet parce que c'est vraiment devenu une légende sur Tumblr, le commentaire audio de Twilight fait par Robert Pattinson, qui donc joue Edward Cullen et qui déteste Twilight. Je pense que personne ne déteste Twilight plus que le mec de Twilight. Et du coup, dans le commentaire audio du DVD, il est hilarant parce que vraiment, il commente tout ce que fait son personnage et tous les choix de costume et tout. Il est là, mais c'est tellement prétentieux. Enfin, qui fait ça dans la vie? Pourquoi les gens aiment ce personnage et tout? Et du coup, c'est très marrant de voir Robert Pattinson détester Twilight. C'est un sport national pour lui.
Okay.
Pour la parenthèse commentaire audio. Et du coup, je retrouve dans ce bouquin un petit peu de toute cette tout ce que tu apprends déjà en termes factuels, et puis de plonger dans le behind the scenes d'un tournage qui est pas forcément un endroit où j'irai dans ma vie, parce qu'au final, le cinéma et les séries, ça m'intéresse, mais plutôt comme produit que comme toute de production. Et du coup, j'arrive un petit peu à me dire ok, donc je replace un petit peu la réalité des tournages avec la réalité de Game of Thrones dans ma tête. Et ça me rappelle les commentaires DVD. Voilà.
Ah, c'est cool. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, je pense que même quand tu achètes aujourd'hui un film en streaming ou tu vois, genre sur Apple TV ou n'importe où, il y a souvent des bonus, mais je pense pas qu'il y ait des commentaires. Enfin, tu vois, il y a une version commentée. Comme
en
ça,
plus, il y en a qui font genre, enfin, c'était cool quoi. Il y en avait qui faisaient vraiment tout le film. Tu pouvais voir tout le film avec le réel qui t'explique toutes ses intentions et tout. Je veux dire, c'est cher comme masterclass d'avoir Cronenberg qui vient t'expliquer son film quoi. Donc c'était vraiment chouette. Attends, je vais demander un truc à mon co-confiné. Alors pas. Il regarde Rap Joe. Est-ce que tu sais si sur les Blu-ray il y a des commentaires DVD?
Ah oui.
Avant, c'est où et tout, il t'explique le souvent. Film comment. Il dit il y a des bonus donc ça doit exister. Peut-être qu'en fait les commentaires DVD n'ont jamais disparu et s'appellent juste les commentaires Blu-ray, mais comme je n'ai jamais possédé de lecteur Blu-ray de ma vie, je ne le sais pas.
Ok, alors attends juste deux secondes, je remonte un peu les commentaires, mais il y a Chino qui dit The Mandalorian, alors que j'ai pas
The Mandalorian. La série Star Wars.
Star Wars sur Disney+, ça fait ça pour la première saison. Il y a une série documentaire sur le making-of de la série. Je savais pas.
Ah, c'est cool. En plus, ça doit ça pour le coup, pour les fans de Star Wars, ça doit être hyper plaisant à voir, quoi. Comment tu crées tout un univers dans leur univers préféré. Passion.
Yes.
Par contre, je suis pas du tout hypé pour le préquel de Game of Thrones. Hein. Des fois, j'y pense et je suis là, waouh, c'est dingue comme je m'en fous. Après, je regarderai quand même parce que je suis une Yankee, mais pour l'instant, je m'en fous. Et je crois que les gens s'en foutent. Il y a un peu cette vanne récurrente sur Game of Thrones, genre la série qui a tellement déçu sur la fin que les gens n'en parlent plus du tout. Immédiatement, les gens ont fait « Ah !» On va arrêter d'en parler, du coup. Et tu vois, genre, tous les ans, t'as encore des articles sur Lost, sur Breaking Bad et tout. T'as pas beaucoup d'articles sur Game of Thrones. Les gens sont là « Non, on a trop été déçus. On a trop été blessés. »
Je pense que t'as plutôt tendance à beaucoup plus vite brûler ce que t'as trop adoré. C'est un peu... C'est très humain, comme façon de réagir. Et à mon avis, mais tu vois, c'est pareil sur Dexter. J'ai vu plein de gens ultra vénères sur la fin. Enfin, moi, j'ai pas suivi Dexter, mais j'ai vu plein de gens ultra vénères sur la fin. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc de OK, Dexter revient. J'ai vu des articles sortir sur le net. Alors que pour moi, les gens auraient dû se dire bah non, en fait, vu la fin pourrie, et encore une fois.
Non, pourquoi ça marche pour Dexter? Attends, mon gars.
Vas-y, dis-moi.
Parce que Dexter, c'est le showrunner original. donc pas celui qui a fait la fin de merde, qui revient faire une nouvelle saison de 10 épisodes avec le cast d'origine, avec la volonté assumée de réparer la fin de Dexter et d'offrir à Dexter la fin qu'il aurait dû avoir. Donc en vrai, c'est comme si mon réal préféré de Game of Thrones, qui est Brian Cogman, venait de dire « Ok, on va refaire toute une saison de Game of Thrones et on va bien boucler les trucs. Cette fois-ci, on va reprendre tout le monde et on va faire des vraies fins que chaque perso mérite. » Je serais en feu et tout le monde serait en feu. On serait là en mode « Yes !» Tu sais, t'as trop le seum quand une série qui était si bien a une fin si ratée ou pire se fait annuler. Du coup, je sais pas ce qui est pire. Du coup, pour Dexter, c'est bien joué, tu vois, parce que au moins, il y a un espoir que ce soit bien. C'est pas genre on va faire un vieux remake parce qu'on n'a pas d'inspiration. C'est le mec, je sais pas comment, a négocié de reprendre sa série. Alors, il va quand même prendre en compte la fin qui a existé parce qu'elle a existé. Il va pas rebooter totalement. Et puis bon, les acteurs ont pris 10 piges aussi. Mais en tout cas, il va réécrire une fin pour Dexter.
Au sein de la même chaîne.
Oui.
C'est-à-dire que la chaîne se dit elle-même, on a tellement chié dans la colle avec la première fin qu'on est tout à fait prêt à réparer le truc.
Bah, ou la chaîne se dit, on veut cash-in sur Dexter 10 ans après, c'est ces conditions-là, bah vas-y, on va le faire. Hein. Genre la chaîne, dans tous les cas, les gens ils vont regarder, tu vois.
Pas si mal.
Et je sais, en fait, personne sait. Moi, je sais pas te dire. Qui c'est qui décide qui est à tel poste, tu vois ? Qui c'est qui a décidé que ce serait telle personne qui allait faire la fin de Dexter ? Qui c'est qui a décidé que il y aurait pas assez de d'écrivains dans la salle des scénaristes de Game of Thrones et que du coup il y avait des storylines qui étaient pétées ? Enfin, je ne sais pas. Donc je sais même pas qui blâmer, tu vois. Je vais pas te dire ok, HBO a merdé avec Game of Thrones, donc je vais plus regarder de série HBO, parce que globalement c'est quand même souvent bien.
Ok. Bon, apparemment il y a des gens qui ont à la fois trop hâte de cette saison et qui en même temps ont très peur pour la suite de Dexter.
Ah, du coup, tu risques la double déception, quoi. Mmh. C'est comme quand ton ex y revient, il peut pas remerder, quoi. T'es encore fragile.
Est-ce que c'est une bonne idée de laisser son ex revenir ? Ça, c'est une autre question.
Parfois, oui.
Ah.
Parfois, on se sépare avec des gens et au final, soit on change assez bien pour se retrouver, soit le fait de se séparer était le déclic dont on avait besoin pour que ça se passe bien.
Je vois ce que tu veux dire. Il y avait Bérangère Krief qui avait un sketch à l'époque là-dessus qui était, je trouve, une métaphore assez maligne. C'est-à-dire que c'est comme si tu mangeais tous les jours le même plat, tu vois, pendant des années parfois. Et puis, t'aimes bien tous les jours. Et puis, un jour où t'aimes plus. Et en fait, tu fais, ah bah, en fait, en vrai, j'aime plus. Tu le mets au frigo. T'attends le temps qu'il faut. C'est-à-dire, alors parfois, c'est pas long, hein, tu vois, mais parfois, ça peut être 1 an, 2 ans. Et puis, tu retrouves ton ex. Et en fait, ce plat que t'aimais plus, tu le remanges. Et en fait.
Et tu l'aimes comme au premier jour.
Souvent pas, hein, non? Parce qu'il est un peu moisi.
Ah ouais. Ah non, mais pas le même plat. Mais non, mais quand
si, le même le plat.
Mais non, tous les jours tu manges le même plat, ça veut dire que tous les jours il est frais. Il faut rester dans la cohérence de ton monde, ok, Fabrice. Tous les jours tu manges le même plat frais, sinon ton mec serait moisi. C'est ton mec jour 3. Donc c'est plutôt, tu sais, des fois tu te gaves d'un truc, genre je sais pas, tu manges trop de M&M, c'était là. En fait, j'en peux plus des M&M, ça m'écœure. Ou tu te cuites un peu trop violemment au rhum et du coup t'es là plus jamais de rhum. Et après. Quelques années plus tard, quelques temps plus tard en tout cas, voilà, t'as eu le temps de découvrir d'autres saveurs, de rincer un petit peu tout ton palais et ton foie de ces M&M's au rhum, et tu remanges des M&M's et tu te dis mais putain, mais en fait j'adore les M&M's, c'est trop cool, je suis contente parce qu'il fallait que j'en mange pas pendant un moment pour me rappeler que c'est quand même trop bon. Que ceux avec la vraie cacahuète dedans, les autres c'est oui. Nul à chier.
Qui fait
les M&M's sans cacahuète, c'est vraiment respectez-vous. Bref, le beurre de cacahuète ça compte pas.
Qui fait ça,
M&M's, ça crème. Merci. C'est pas la reco, c'est l'opinion, hein. Oh là là.
Il y a des opinions claires et nettes dans cette émission. Et est-ce que tu veux que je te fasse ma petite reco à moi ?
Bah ouais, vas-y, c'est quoi ta reco ?
Alors moi, j'ai découvert une série complètement par hasard sur Netflix qui s'appelle Easy. Et apparemment, qui était sortie en 2016. Et Mimi, quand je t'en ai parlé un petit peu, parce que moi, je t'ai pas forcément dit que j'allais faire une reco là-dessus, mais je t'en ai parlé. Tu m'avais dit qu'elle faisait partie de toute une série de séries Netflix qui était un peu décevante, en fait. Et de ce fait-là, t'étais un peu passé à côté.
Ouais, en fait, j'ai l'impression, mais c'est peut-être pas du tout la bonne temporalité que j'ai en tête, mais j'ai l'impression que c'est sorti un peu en même temps que Love, la série de Judd Apatow. Que tout le monde se branlait un peu sur Girls encore à l'époque et tout, et j'étais là, en fait c'est pas mon truc les séries indie de gens de la vraie vie qui se parlent pas trop. Il y avait aussi pas Transparent, mais un truc par les mêmes gars, enfin bref, c'était que des gens blancs en Californie qui sont dépressifs, tu vois. J'étais saoulée, ça m'a saoulée, et du coup j'ai arrêté.
Et alors j'ai découvert que En fait, le mec qui a écrit cette série, parce que c'est un mec qui a écrit cette série qui s'appelle Joe Swanberg, en vrai, il est censé être une figure de proue d'un mouvement cinématographique qui s'appelle le mumblecore. Je sais pas si tu connais.
Oh, bah, c'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Alors, je connais dans le rap, le mumble rap, mais pas dans le cinéma.
Bah, dans le cinéma, en gros, c'est un peu des... Je sais pas si tu avais vu ce film sur Netflix qui s'appelle Blue Jay, qui est sorti dans Netflix, au tout début de Netflix.
Alors, je t'écoute, mais je Google en même temps. Pour
Vas-y, Google. C'est un film qui met en scène, en gros, un couple, enfin un ancien couple, en fait, d'amoureux au lycée, et qui se retrouve 20 ans plus tard dans leur village natal, complètement par hasard, dans l'épicerie. Ils rentrent, genre, pour les vacances, quoi.
Ah, mais c'est ce gars, putain, je le déteste. C'est ça que je te disais.
C'est le mec.
C'est fucking Marc Duplass. Oui. Marc Duplass, c'est le scénariste de Blue Jay. Il joue dedans. Et il joue dans la série dont je te parlais, qui était des gens blancs dépressifs. Et ce mec, à chaque fois qu'il crée un truc, je suis là, mais.
Alors attends, il joue aussi.
Oh, Snap, tu vois, genre. Ah, j'ai envie de le réveiller.
Il joue Chip.
Il a pas la dépression.
Attends. Il joue Chip dans The Morning Show aussi.
Oui, là, il a le droit. Parce que c'est pas sa série.
Ah oui, ok, d'accord.
C'était ça, Togetherness, putain, mais quel enfer, cette série. Oh là là. Non, mais oui, du coup, ça, tu vois, j'ai vu sa tête et j'étais là, ah, c'est vers lui que mon...
Et alors, désolé,
mon
mais...
Mon énervement était dirigé.
En fait, ce film, Blue Jay, là, qui est en noir et blanc, qui est avec Sarah Paulson aussi...
On l'adore.
Qu'on adore, pour le coup. Franchement, ce film, je trouve que c'est vraiment l'un des plus chouettes films d'amour que j'ai vu ces dernières années, quoi. Parce qu'il est tout en nuances. Vraiment, les deux gars se retrouvent 20 piges plus tard, ont laissé passer complètement leur life passée, quoi, tu vois, 20 ans plus tard. Ils étaient hyper amoureux. Ils se séparent pour je ne sais plus quelle raison, mais en gros, une raison foireuse. Et ils se retrouvent 20 ans plus tard en se disant « Ah putain, est-ce qu'il y aurait pu avoir une histoire entre nous, quoi ?» Et en fait, je trouve que c'est plutôt bien écrit. C'est pas ce fameux Joe Swanberg qui a écrit ça, mais c'est juste, apparemment, ce film fait partie de ce fameux mouvement mumblecore je cite Wikipédia, c'est sur des sujets tournants autour de relations entre personnes de 20 à 30 ans, des dialogues en partie improvisés et des acteurs souvent non professionnels avec des tout petits budgets, genre filmés à l'arrache, quoi.
Ouais, je vois. Mais bon, là du coup... Enfin, Sarah Paulson, elle n'a pas entre 20 et 30 ans, tu vois.
Non.
Marc Duplass non plus.
Non, ils ont plutôt...
Je vois, c'est genre un peu du cinéma réaliste, centré autour de souvent des relations interpersonnelles.
Ouais. Voilà.
Du coup, est-ce que Before Midnight et tout, c'est... La trilogie Before, peut-être que c'est du mumblecore avant l'heure.
J'ai revu la trilogie, là, il n'y a pas très longtemps. Putain, c'est... Toujours bien écrit. Toujours bien écrit. Toujours aussi bien écrit, franchement.
Feel good. Non, c'est trop bien. Pour le coup, j'ai toujours pas vu le 3. Je pense que c'est trop tôt dans ma vie. Mm. Mais contexte. C'est mon métier, je suis contexteuse. La trilogie Before, c'est une trilogie Before Midnight, Before Sunrise et Before Sunset, de trois films très jolis, réalisés par les mêmes personnes et incarnés par les mêmes personnes, mais tournés à plusieurs années, voire décennies d'écart.
Une décennie, 10 ans. 10 ans d'écart,
je crois. Mm. Ok. Qui raconte du coup la vie de deux personnes qui s'aiment et qui se cherchent, se trouvent peut-être, se perdent, machin. Donc ça commence dans Before Midnight où ils sont tout jeunes,
non.
C'est Ethan Hawke.
Ça commence dans Before Sunrise.
Ah, c'est Sunrise, Sunset et Midnight.
Yes, c'est,
ah,
dans,
oui, toujours dans...
c'est dans ce sens-là.
Bah vas-y, fais le contexte parce que c'est toi qui...
Non, mais si tout, si tu veux, ils tombent l'un sur l'autre complètement par hasard dans un train qui les mène à Prague, si je me souviens bien. Et en fait, donc c'est Julie Delpy et Ethan Hawke qu'on adore vraiment.
Ils sont si jolis tous les deux. Oh là là.
Donc le premier film est tourné en 1993, donc ils sont tous les deux très jeunes. Ils ont d'ailleurs à peu près l'âge de leur perso, quoi. Ils ont une petite vingtaine d'années. Et donc Julie Delpy joue aussi le rôle d'une petite Française qui se balade en train dans toute l'Europe. Et en fait... Exactement. Et ils commencent à discuter et en gros, le film, il s'arrête, je ne sais même plus pour quelle raison. Normalement, Ethan Hawke est censé continuer son trajet, mais il décide, ou je ne sais plus si c'est elle, mais il décide de passer la journée ensemble, de passer la nuit ensemble. Et en fait, ce film n'est qu'un...
C'est une longue nuit à parler, quoi.
Voilà. Et la trilogie, ce n'est que ça. Il déambule dans les rues en discutant. Voilà.
Très joli. Un peu dur si vous êtes un peu sentimentalement sensible, de type « Oh là là, j'aimerais bien trouver l'amour », tout ça, ou « Oh là là, je suis pas sûr que ça aille bien dans mon couple », ou tout ça. Ça,
et encore,
ça va activer le bon robinet à larmes.
Et encore, t'as pas vu le dernier qui est, pour le coup...
J'attends le mariage. après, avant le mariage.
Ils auront 10 piges après le mariage, donc...
Spoiler.
Donc voilà, pour revenir sur Izzy, en fait, c'est ce mec-là qui a réalisé la plupart des épisodes. Et en fait, ça démarre, le premier épisode, c'est un couple qui décide de se lancer dans le couple libre, parce qu'en gros, ils s'emmerdent un peu. C'est un couple qui ont genre 35-40 balais. Ils ont des enfants qui ont, on va dire, 8-12 ans, quoi. Et ils font plus l'amour, bref, ils sont chiés. Et c'est la meuf, en fait, à la base, ils sont en thérapie de couple. C'est la meuf qui dit, bah moi, j'aimerais bien qu'on tente le couple libre. Et le premier épisode, assez rapidement, en fait, on les voit expérimenter ce couple libre. Et à la fin de cet épisode, tu te dis, bon, bah cool, on va suivre un petit peu ces personnages-là tout au long de la série, de la saison. Et en fait, pas du tout, tu passes sur une complète autre histoire. Et en fait, tu te rends compte au fil de l'eau que tous les personnages sont entremêlés. Ça se passe à Chicago. Et donc,
ça, j'aime bien.
C'est trop trucs, bien.
Les films chorales, tu sais, genre les trucs nuls, genre Valentine's Day et tout. Mais où à la fin, tu te rends compte que tout était connecté parce que le gars, c'était le frère de machin, ou Love Actually, pour en citer un peu mieux. Ça, j'aime bien. À chaque fois, je vois le truc venir, je suis là, ils vont tous se réunir. Et après, ils se réunissent tous et je suis là, tout était lié. C'était quand même bien fait, ce film. J'aime trop.
Pour info, quelqu'un sait où on peut regarder Before, la trilogie Before. Alors, moi, j'ai vu, je pense que les deux premiers sont sur Amazon Prime vidéo, et le troisième, il est en VOD. Vous pouvez le louer, quoi. Mais voilà, quoi. En tout cas, si vous le souhaitez, c'est disponible à ce moment-là. Et effectivement, en fait, je trouve que c'est trop bien fait parce qu'ils viennent vraiment. C'est très bien fait tout au long de la série, voire même des trois, parce qu'il y a trois saisons, où ils viennent amener à un moment donné un gars comme ça que t'as vu une saison auparavant, mais juste sur un petit truc, tu vois, où t'as un chauffeur de taxi qui est humoriste aussi, qui est stand-upper, et en fait tu le vois, le mec il balade les gens au fil de l'eau comme ça, où tu fais oh c'est lui, c'est...
Ah, je l'ai reconnu.
Tu l'as reconnu ou pas?
Et du coup, tu dis que l'idée n'est pas du tout de suivre ce couple qui tente le couple libre. Mais est-ce que tous les épisodes, c'est quand même autour d'une histoire de couple? Alors, ou est-ce que t'as aussi des relations genre frère-sœur ou
en fait,
ou des machins?
La première saison, elle est plutôt tournée autour du cul. Donc en fait, je me suis dit, ok, c'est vraiment tourné autour des prises de tête, autour des relations sexuelles, du sexe d'une manière générale. Le deuxième épisode, si je ne me trompe pas, c'est un couple de lesbiennes qui tombent l'une sur l'autre de façon complètement random dans une boîte et qui font l'amour follement pendant une nuit. Et en fait, le lendemain, elles se trouvent et en fait, elles se plaisent bien. Et au fil de l'eau, bah, elles finissent par apprendre à s'apprivoiser. Et tu les suis en fait tout au long des saisons. Et au fil des saisons aussi, tu te rends compte en fait que ça parle moins de sexe que de relations, parce que y a notamment un épisode où qui se passe dans une. D'ailleurs, il y a des guests, ça aussi, faut le dire, mais il y a des guests tout à fait géniaux.
Est-ce que tu peux en dire deux et pas les autres, comme ça garde le plaisir de savoir ce que voir les autres faire. C'est Matt Damon.
Donc il y a Orlando Bloom.
Ok, on aime bien Orlando Bloom. Franchement, il a bien réussi sa life. Hein.
À poil.
Ah, c'est ça les deux guests, Orlando Bloom et cette.
Alors, son cul, on voit pas.
Il n'y avait pas eu des photos de lui qui faisait du paddle tout nu.
Je sais pas.
Je crois qu'il y avait eu des photos d'Orlando Bloom de paparazzi qui faisait du paddle tout nu et j'étais là, what a life. Franchement, les Golas, au top.
Et surtout, il a poussé le gars. Hein. Vraiment, il est devenu hyper stock. J'avais pas suivi justement Orlando Bloom depuis l'époque de Legolas, mais en vieillissant, il a poussé quoi. Et il y a ce que j'avais pas du tout reconnu, que j'ai remis quand j'ai préparé cette reco, n'est-ce pas? Mais en fait, il y a Emrata qui joue dedans.
Ah, et oui, Emily Ratajkowski.
Voilà. Donc, il y a des guests absolument géniaux qui sont disséminés tout au long des trois saisons. Et le cast de base, il revient. Mais il revient, par exemple, ce fameux couple-là, tu les revois peut-être à quatre ou cinq reprises tout au long des trois saisons. Et en fait, ça suffit largement pour creuser l'histoire et pour les amener à un endroit qui est vraiment cool, je trouve. T'as un couple, en fait, avec deux frères aussi qui sont en train de... qui brassent de la bière dans leur garage et qui finissent par décider de s'associer ensemble. Et en fait, leurs meufs respectives décident aussi de s'associer ensemble.
Ah.
Et notamment bah, le cast...
Un avis sur cette idée pour ton couple et ton amitié. C'est une bonne idée de t'associer avec quelqu'un et ta femme s'associer avec sa femme.
Bah, moi, je l'ai fait. Ça a plutôt pas trop mal marché. Hein, donc,
C'est vrai.
Bon, après, ils se sont séparés. Et nous aussi, on s'est séparés. Donc, après...
En fait, je pense qu'il fallait qu'il y ait un duo qui craque. Et c'était soit... Parce que du coup, ton associé... tu avais un associé oui. Et sa femme était associée avec ta femme.
Ouais.
C'était soit un des deux business allait couler, soit un des deux couples avait coulé, tu vois. Et toi, du coup, t'as évité les deux balles. T'as fait... Yes! Parce que c'est pas toi qui t'es séparé en premier.
Non, on s'est... Bon, on est... En même temps, on avait 15 ans de moins. On avait 15 ans de moins, donc si tu veux...
C'est vrai, vous aviez moins eu le temps
d'en avoir. C'était pas forcément gagné autant. Mais ouais, je te disais, en fait, par exemple, il y a Aya Cash qui joue Stormfront, tu sais, dans The Boys.
Ouais, on l'adore.
Qui est vraiment ultra canon. T'as l'un des deux frangins qui brasse de la bière, c'est Dave Franco, qui est le petit frère de...
Ah, lui, on l'aime bien.
De James Franco. Qui... tu préfères que James Franco, d'ailleurs? Parce que je sais que t'aimes pas James Franco.
Je préfère Dave Franco.
Et il y a, tu vois, il y a Marc Maron aussi. Tu vois qui c'est Marc Maron?
Mais tu sais que je suis nulle en nom, Fabrice.
Non, mais
pourquoi tu fais ça?
C'est le mec qui a un podcast qui s'appelle What the Fuck with Marc Maron, qui fait un podcast, enfin qui est humoriste et qui fait un podcast dans son garage aux US et qui a reçu fucking Barack Obama dans son garage pour faire une interview de Barack Obama. Il est huge là-bas aux États-Unis. Et il joue un prof qui est dessinateur.
Non, je vois, mais en fait, quand je vois sa tête, je me dis ah, c'est le gars qui joue dans les films avec Marc Duplass, qui sont que des films de blanc dépressif en Californie. Et ben... Mais par contre, je sais qu'il a un podcast qui est connu, mais du coup, je pensais que c'était un podcast déprimant. Je savais pas que c'était un comique.
Ah, il joue dans la série des catcheuses d'Ishino, mais alors attends, c'est quoi? Glow. Glow.
Oui.
J'ai pas vu. Glow. Et effectivement, il joue un peu un quinca dépressif qui dessine notamment sa vie sentimentale. Et en fait, sa storyline à lui, tu pourrais te dire, ok, ça va être foireux, ça va être chiant, quoi, tu vois, mais elle est trop, trop bien dessinée au fil de l'eau. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est cool, c'est que c'est un mec qui a écrit ça. Et je trouve que la façon dont il dépeint les personnages, et notamment, bah, il y a toutes des histoires après... après 2016, donc la première saison c'est 2016, je pense que la deuxième elle doit être autour de 2017-2018, un truc comme ça, et la dernière est sortie l'année passée, donc bien sûr il y a des histoires avec MeToo, et je trouve que c'est plutôt pas mal écrit en fait, pour un gars, les personnages féminins sont très cool, et il y a aussi dans le cast de base, il y a la petite meuf qui joue dans, enfin qui chante dans Garfunkel and Oates, tu sais.
Ah oui, Bruno là.
Prends-moi dans la petite brune, ouais, pardon.
Ok.
La plus petite des deux.
Garfunkel and Oates, c'est un groupe parodique américain, un peu façon The Lonely Island.
Ouais.
Et c'est deux meufs, et elles ont notamment fait une chanson très mignonne qui s'appelle « Prends-moi dans les fesses parce que j'aime Jésus ».
Voilà.
Car c'est la backdoor divine. C'est le loophole divin.
je pense que c'était... J'avais écrit un article...
Je pense que c'est sur
cette vidéo en 2013. Voilà, je vous le mets dans le chat si vous souhaitez aller écouter cette chanson qui vaut vraiment la peine d'être écoutée parce que c'est très marrant.
Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'écriture et la sensibilité, ça qui m'emmerde un petit peu, c'est que en soi le mumblecore, j'ai l'impression que c'est vraiment un genre de mec sensible, tu vois. Et que c'est vraiment des œuvres de mecs sensibles qui parlent de leur sensibilité, de leur rapport aux autres. Dans ma tête, c'est assez masculin comme genre en termes d'écriture et de réel. Même si du coup, il y a toujours des meufs, mais c'est un peu toujours genre centré sur... J'ai l'impression souvent sur les émotions des mecs par rapport aux meufs et tout. Ce qui n'est pas grave en soi. Enfin, il y a deux personnes, on peut faire des choses sur les deux. Et du coup, bah, comme moi, j'encourage, n'est-ce pas, via mon travail et ma personne, les initiatives qui mettent en avant que les mecs peuvent être sensibles et qu'ils ont le droit et tout. Le mumblecore, j'aime pas parce que je trouve ça chiant, mais c'est pas parce que c'est des mecs sensibles, quoi. Que ça soit bien clair, c'est très bien que des mecs fassent des shows sur leur dépression à 40 ans et le fait que, je sais pas, ils hésitent à tromper leur femme et changer de pays, tu vois, je suis là, ok, faites-le. C'est très bien, je ne sais pas mon truc.
C'est un peu caricatural la façon dont tu le dépeins, mais en tout cas, oui. Je trouve que ce n'est pas du tout présenté comme ça. Et vraiment, si ça avait été ça, ça m'aurait vraiment saoulé. Il y a des moments d'ailleurs où les personnages, notamment ce personnage de Marc Maron, là, qui est un peu un quinca dépressif, il tangente ça en fait. Mais je trouve que comme dans, souvent, je trouve que dans les bonnes séries, il fait des conneries, en fait, et ça lui revient dans la pipe. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool dans ce sens-là. Parce que tu peux avoir des persos qui ont des comportements problématiques, entre guillemets. Moi, tant qu'ils le payent à la fin, en fait, et qu'ils prennent une leçon, je trouve que c'est cool, quoi. Et là, en fait, ils s'en sortent pas bien. Donc, c'est plutôt cool. Enfin, pas bien. En tout cas, pas sain et sauf, quoi, tu vois.
Un peu comme Geoffrey Baratheon, qui a finalement payé. J'étais en train de me taper une barre parce que j'étais là, ok, je vais faire un segue pour revenir à Game of Thrones. Mais c'était juste pour t'embêter. Je vais pas le faire pour de vrai.
Je comprends. Je...
tu l'as.
Je l'ai. Et c'est des épisodes de 20 minutes. Ça se binge à toute vitesse. C'est vraiment un bonbon, ce truc. Et surtout, bah, y a un peu de cul. Alors, et le cul, est franchement, les scènes de cul sont plutôt bien faites. T'es là, ok.
Je venais de rien, du Vatican à The Affair. C'est chaud comment ? The Affair, c'est probablement la série la plus chaude du cul que j'ai vue de ma vie.
Franchement, ça tangente The Affair certaines scènes où t'es là, ok. Et notamment le fameux couple libre là.
Ils profitent bien.
Ils vont tester des trucs et c'est plutôt cool. Et tu vois, t'as les actrices et les acteurs à poil. Enfin, je trouve que c'est plutôt cool. Et t'as Orlando Bloom qui joue dans un épisode fabuleux qui joue un couple. Je me souviens plus de l'actrice qui est une blonde qui a joué dans toutes les comédies machin et qui tente un plan à trois, un couple marié qui tente un plan à trois avec. Enfin bon, bref, je vous en dis pas plus. C'est savoureux, vraiment.
Bah, tu nous as déjà vendu le full dorsal et nous le full frontal.
Ouais.
On prend, on a noté. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde.
Ouais, ouais. En tout cas. Enfin voilà, je vous conseille si ça vous intéresse. C'est plutôt une série très cool à côté de laquelle j'étais totalement passé quand c'était sorti, sur laquelle je suis tombé complètement par hasard. Et franchement, bon kiff, très très bon kiff.
Trop bien, Easy sur Netflix,
tout à fait. Je vous mettrai la bande annonce dans les notes, comme ça vous pourrez voir. Désolé, j'ai pas encore tout à fait le stuff pour vous balancer la bande annonce sur mon stream, mais. Tôt ou tard, ça arrivera, croyez-moi.
Ça ne saurait tarder.
Je vais upgrader. C'est Malin Ackerman, tout à fait. Merci Chino, qui est la fameuse, cette actrice blonde qui joue dans pas mal de comédies, qui joue la meuf d'Orlando Bloom dans Easy. Tu vois pas qui c'est ? Non.
Non, mais sûrement que si, hein. Mais juste.
Oui, si tu vas voir sa tête, Malin. Tu vas faire ah, mais oui.
Malin Ackerman.
Ouais.
Comme Malin.
Ouais, comme M-A-L-I-N.
Ah bah non, tu vois non.
Ah ouais, c'est pas.
C'est pas trop. À part qu'elle ressemble un peu des fois à Reese Witherspoon. Mais non.
Elle joue dans 27 robes et dans La femme. Putain.
Ah ouais, mais moi j'ai pas eu la période Catherine Heigl, comédie romantique et tout. Jamais vu Matthew McConaughey dans une comédie romantique de ma vie.
Ah mais ça c'est limite erreur professionnelle, je viens de dire.
Bah excuse-moi, c'est pas comme si au travail tu m'avais obligé à regarder des comédies romantiques avec Matthew McConaughey. Mais non, j'ai, tu sais, c'était l'époque où j'étais là. Les filles, c'est nul. Les trucs féminins, c'est nul. Du coup, je regardais Fight Club.
Non, elle joue la meuf folle dans la femme de ses rêves avec Ben Stiller là. Je sais pas si t'as vu ce film où la meuf joue une meuf totalement.
J'ai essayé de voir. C'était une comédie chiant. Romantique avec Ben Stiller. C'était Marie à tout prix. Elle a mis du sperme dans ses cheveux. J'ai dit ok, salut.
Ah oui.
Je pars. Et je suis partie.
Et speaking of Matthew McConaughey. Je vous conseille un podcast avec Tim Ferriss, donc qui est tout en anglais, où il raconte son fameux passage de gars qui joue que dans des comédies romantiques à qui on refourgue des comédies romantiques en veux-tu en voilà, où il parle de 18 mois de désert où il a pas du tout joué, où en fait il refusait l'intégralité de ce qu'on lui proposait, et en fait il raconte notamment une anecdote où il y a un film en particulier où il trouvait le scénario un peu meilleur que d'habitude, si tu veux. Donc il était vraiment à deux doigts de céder. Son agent lui disait non, vas-y, viens, on cède pas, garde le truc, garde la pêche, on va continuer, on va garder cette ligne là. L'objectif, c'est de sortir de cette image là. Et en gros, pour jouer un peu au bluff, il double le salaire. Donc tu vois, je sais plus, il avait par exemple 2 millions de dollars, il demande 5. Et les mecs lui disent ok. Donc il est là, oh putain. Donc il dit bah finalement non. Je vais demander 8 Et en fait, en disant bah, les mecs vont pas prendre, ils font OK, pas de problème pour 8. Et donc, il y a tout un jeu comme ça où il finit à je sais plus combien, 15 millions de dollars pour un film, où il finit par dire bah non, en vrai, c'est pas possible, je vais pas le faire.
Franchement, c'est propre. Respect d'avoir dit non. Moi, j'aurais été là. Vous me voulez où? On commence lundi. Je suis là, je peux être là dimanche soir, ça vous arrange, il n'y a pas de soucis, je fais les croissants.
Et un an et demi sans faire de film, à cause ou grâce à ce move, quoi, et qui a fini par complètement le changer.
Ah bah, ça a payé de ouf, hein, mais fallait y croire, quoi.
Exactement. Est-ce qu'on a fait le tour?
Bah, je crois bien.
Ça fait une heure qu'on parle, Mimi, oh là là,
bah oui.
Qu'est-ce que c'est bien de t'entendre parler,
le
ça fait plaisir.
Le temps file en bonne compagnie, bah oui.
En tout cas, merci beaucoup. Tu seras officiellement la marraine de mon émission.
Ça me touche.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup, Pablo, pour ta confiance.
Merci à vous qui êtes sur le chat. Merci pour les questions, merci pour
les
remarques.
Merci les Fab de La Fontaine. J'ai envie que ça prenne. C'est tellement nul. J'ai envie que ça prenne.
Je vais lancer un petit sondage sur mon Discord ainsi que sur mon Instagram afin de trouver un nouveau nom. Les Fabs de La Fontaine. Donc il y aura pour les gens qui viennent d'arriver, il y aura le replay complet, donc à la fois sur ma chaîne Twitch mais aussi en podcast, je pense à partir de la semaine prochaine. Et puis on se retrouve nous le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, pour l'instant à 20h, maybe à 21h, on verra par la suite, mais en tout cas pour l'instant à 20h, avec à chaque fois un nouvel invité. Ce sera pas Mimi à chaque fois, hein, désolé, mais en tout cas compte sur moi pour te réinviter de temps à autre si t'as envie, si t'as trop
une
de kiff.
Une fois par an, je viendrai dans la reco parler exclusivement de Game of Thrones.
Oh non.
Et ce, jusqu'à ma mort ou ta mort.
C'est vrai? C'est un deal?
Chapitre par chapitre. Non, je serais capable. Ne me tente pas, Fabrice.
Aujourd'hui,
Mimi. La technique de répétition, c'est tentant.
Aujourd'hui,
non, je voudrais vous parler d'autre chose.
Aujourd'hui, Mimi va nous lire un chapitre. Ça serait bien.
Tu déconnes, mais après, les gens, ils sont là. Oui, fais-le. Et je suis là. C'était une vanne et j'ai pas les droits. Du coup, non, ça ne va pas arriver. Merci.
En tout cas, merci à vous sur le chat. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de La Reco. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à lundi prochain avec un ou une nouvelle invitée, quoi.
Bon week-end les gens, prenez soin de vous.
Bisous les gens, salut, à bientôt.
Salut.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.